Le grand rendez-vous de l'immobilier, une émission présentée par Capital et Radio Immo.
Bonjour les amis et merci d'être avec nous pour ce numéro de décembre et pour la plupart d'entre vous, vous vous préparez pour les fêtes de fin d'année. Un peu de repos va nous faire beaucoup de bien. Voilà, les fêtes de Noël et le jour de l'an arrivent à grands pas. On est dans le numéro du grand rendez-vous de l'immobilier pour cette édition de décembre 2023. Merci aux équipes de Radio Immo et de Capital. Bonjour Guillaume Chazoulière.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va Guillaume ?
Ça va très bien.
On va parler du neuf pour ce 54e, je vais y arriver, numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. On va parler d'immobilier neuf.
Oui, on parle d'immobilier neuf avec un représentant de la Fédération Promoteur Immobilier, le délégué général, monsieur Didier Bélégagnard. Bonjour.
Bonjour Sylvain, bonjour Guillaume.
Avec vous, on va faire le point de cette année, dure pour l'immobilier neuf. On va essayer de dresser des lignes, voir comment 2024 se dessine. On parlera aussi de l'habitat de demain, voir comment les constructeurs vont, les promoteurs vont aménager la ville sur la ville. On le sait, hein, il y a de moins en moins de terrains disponibles.
Alors avec nous également, comme chaque mois, vous le savez, tous les mois, vous posez vos questions, ça marche de mieux en mieux, sur le club Facebook géré par Capital, hein, les questions que vous vous posez au quotidien, les questions sur l'immobilier. On voit bien que c'est de plus en plus une préoccupation. Ils sont avocats, experts comptables, ils sont notaires, ils sont agents immobiliers et ils sont là pour répondre à vos questions. C'est dans la séquence qui suivra. Pour ça vous concerne, c'est parti pour ce 54e numéro. On se retrouve tout de suite après ça.
Le grand témoin.
Avec nous pour parler du marché du neuf, le délégué général de la Fédération des promoteurs immobiliers, Didier Bélégagnère. Merci d'être avec nous. La Fédération des promoteurs immobiliers, c'est 17 chambres régionales, 700 entreprises adhérentes. Aujourd'hui la première force, on va dire, syndicale pour les promoteurs immobiliers. On est ravis que vous soyez avec nous. Nous avons une tradition dans le grand rendez-vous de l'immobilier. La première question est toujours posée par notre ami Guillaume.
Oui, alors rebonjour. C'est une question, on va dire, qui fâche pour commencer, mais c'est normal, il faut bien décrire l'actualité.
On va commencer par ce qui fâche, voilà.
Il faut dire, décrire l'actualité et la situation. Le logement neuf va mal, voire très mal. Alors, on va sûrement atteindre un des plus bas niveaux historiques en construction, en vente sur la promotion immobilière cette année. Alors, pour nos auditeurs, quelles sont vos prévisions pour l'année? Qu'est-ce qu'on peut dire là? Comment on termine l'année?
Exercice qui fâche, je ne sais pas, mais en tout cas, exercice vérité. La promotion immobilière, ce sont les logements collectifs. On a aussi à côté les maisons individuelles, bon, mais la situation est similaire. Mais sur le logement collectif, nos estimations, c'est qu'on devrait atterrir vers 80-90 000 logements vendus cette année. Je vais vous donner un point de comparaison, c'est que dans les années avant Covid et même en 2021, le niveau de vente se situait autour de 160 000. Donc là, on sera à 80-90 000, donc pratiquement deux fois moins. Donc est-ce qu'on a touché le fond? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est aussi inquiétant, c'est qu'on est rentré dans une logique vraiment de crise systémique, c'est-à-dire que la crise alimente la crise. Je vais prendre une comparaison. Quand ce que vous avez en magasin, vous ne le vendez pas, bah, vous ne reconstituez pas vos stocks. Vous attendez.
C'est clair.
Là, c'est exactement la même chose. Les promoteurs ont de très grandes difficultés pour vendre. Donc, il y a beaucoup d'opérations qui auraient dû être lancées, qui ne sont pas lancées. Soit elles sont gelées, c'est le scénario optimiste, soit elles sont carrément abandonnées. Donc, ces opérations qui auraient dû être lancées, les travaux auraient dû être engagés, ne se feront pas. Donc, on va avoir ensuite une pénurie dans les années 2025-2026, puisque l'immobilier, c'est sur le temps long. Et une opération, avant qu'elle sorte de terre, ça prend 2-3 ans. Donc, en 2025-2026, on aura également une pénurie. Donc, cette année, c'est plutôt problème de vente. Et dans quelques années, ce sera
bien
un
sûr.
Problème d'offre.
À la vente.
D'ailleurs, Olivier Salaron, dans un communiqué, puisque on vient de passer un événement important qui s'appelle le salon de l'immobilier d'entreprise, mais qui touche aussi le logement, le CIMI, la Fédération française du bâtiment a annoncé mardi que la fédération entrait en récession. Avec moins 0,3%, c'est un marqueur extrêmement important, et les prévisions sur 2024 sont, on peut le dire, catastrophique.
Ouais, absolument. Olivier Saleron nous avait donné cette information un petit peu en avant-première.
Olivier Saleron, qui est le président de la fédération.
Qui est le président de la fédération du bâtiment. On estime, et nos chiffres rejoignent ceux de la fédération du bâtiment, on devrait perdre sur les deux prochaines années environ 300 000 emplois.
D'accord.
150 000 emplois directs sur l'immobilier,
absolument.
Puis 150 000 emplois chez les architectes, les notaires, etc. Mmh. etc.
On s'est amusé à faire une cartographie, justement, pour tous ceux qui nous écoutent sur le logement neuf. Toutes les régions ne sont pas égales. On a certaines régions comme par exemple l'arc atlantique, les littoraux, qui se défendent plutôt bien, qui maintiennent un niveau. Quelles sont les régions, on peut dire que beaucoup de régions aujourd'hui sont touchées, mais quelles sont les régions qui sont particulièrement soumises à cette crise justement du neuf aujourd'hui? Est-ce que c'est surtout par exemple les grandes métropoles?
Alors, moi je dirais plutôt d'abord qu'on a un effet retard entre certaines régions. C'est qu'on avait constaté que ça allait plutôt bien en Normandie, en Côte d'Azur, il y a quelques mois. Et en fait, les mauvais chiffres sont aussi arrivés sur ces territoires. Mais en tout état de cause, oui, très clairement, ce sont beaucoup les métropoles qui sont touchées au premier chef. Avec, est-ce que c'est un signe avant-coureur où il y a vraiment des difficultés spécifiques? Mais c'est vrai que dans les Hauts-de-France, par exemple, c'est une région ou un territoire particulièrement touché. Où les ventes sont encore plus basses qu'ailleurs.
On va parler des prix, justement.
Mais peut-être pas des prix avant, parce qu'on parle de chiffres qui baissent, de ventes qui baissent, mais on a envie de comprendre. Qu'est-ce qui fait que ça baisse? Quels sont les facteurs de blocage de ce marché, tout simplement? Et est-ce qu'ils peuvent se débloquer à moyen terme?
Il y a deux.
La vente. On ne vend plus.
Pourquoi? Ouais. Ben en fait, il y a deux paramètres, mais qui se répondent. Le premier, c'est la hausse des taux, très clairement.
Oui.
On a eu une hausse des taux hyper rapide qui ont augmenté de 4% sur 18 mois. Et ben, une hausse de taux de 4%, ça fait une perte d'achat, ou de pouvoir d'achat immobilier de 25%. C'est-à-dire que vous pouviez acheter 100 il y a encore un an, vous ne pouvez plus acheter que 75%.
Ça, c'est un petit peu la même chose qui s'est passée dans le logement ancien.
Absolument, oui.
Mais encore, parce que la crise est plus profonde pour le neuf.
Alors, la crise est plus profonde dans le neuf, mais après, on a des contraintes supplémentaires. Mmh. Vous savez qu'il y a un Haut Conseil de stabilité financière, qui est une instance qui est là pour vérifier l'endettement des ménages, notamment, et qui fixe des critères, un taux d'effort de 35% et des durées d'emprunt qui ne peuvent pas dépasser 25 ans, qui viennent bloquer encore plus le système. Puisqu'effectivement, avec une hausse des taux, vos mensualités sont plus élevées, et donc votre taux d'effort, qui est en fait le rapport entre la mensualité et vos revenus, dépasse les 35%, les 35%, et vous ne pouvez plus emprunter. Donc, vous ne pouvez plus emprunter, bah forcément, les ventes en pâtissent directement.
D'accord, mais donc, pourquoi ça touche plus le neuf que l'ancien, ça?
Non, je crois que la problématique, elle est la même dans l'ancien que dans le neuf. Hein, on voit aussi une chute tout aussi importante dans l'ancien que dans le neuf.
Quels sont les autres facteurs qui ont bloqué le marché du neuf? Il y a le pouvoir d'achat, la possibilité des emprunts, mais il y a le problème des investisseurs
aussi.
Ou
les autorisations d'urbanisme, les permis de construire, le rôle des élus locaux.
Les gens ont besoin d'avoir cette cartographie-là en fin d'année.
Pour cartographier les choses, il va falloir distinguer en fait l'offre et la demande.
Voilà.
L'offre, c'est ce qu'on met sur le marché. La demande, c'est ce que les gens veulent acheter ou peuvent acheter. On avait, et c'est vrai, un problème qui est beaucoup plus ancien, un problème d'offre. Et on a vu une rupture à partir des années 2020, enfin des élections municipales de 2020, où les nouveaux maires, mais ils ont été élus sur ces programmes-là, ont délivré beaucoup moins de permis de construire.
D'immeubles de programmes annoncés.
Ouais. On tournait, je donne un ordre de grandeur, en gros, 19 000 logements étaient autorisés par mois avant les élections municipales de 2020, et on a chuté à 17 000.
D'accord.
Donc sur une année, ça fait 24 000 logements en moins qui se font. C'est conséquent, c'est important.
Oui.
Ça, c'était notre problème. Donc on se battait beaucoup sur ce sujet-là avant la crise de l'Ukraine et 2022. Et puis depuis 2022, deuxième couche, on a une crise de la demande. Crise de la demande, c'est-à-dire que les potentiels acheteurs ne peuvent plus acheter, et on revient sur cette question des taux.
Sur ce que vous disiez,
vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un point très important parce que les Français ont été frappés plein fouet par cela. 400 points de base à minima d'augmentation sur les taux d'intérêt sur une période extrêmement courte. C'est d'une violence inouïe.
Absolument.
Et ouais. Effectivement, la pièce que les Français avaient gagnée grâce à la baisse des taux, ils l'ont perdue.
Qu'est-ce qui peut se passer maintenant sur 2024, clairement? Donc, vous êtes asséché. Est-ce qu'il y a des signaux positifs qui peuvent, pour les acheteurs, c'est ça qui nous intéresse, et vous, les constructeurs derrière, ou ça dépend comment on prend le truc, qu'est-ce qui peut débloquer ce marché, là, à court terme, sur 2024?
Juste pour compléter Didier Belliganière, ce que dit Guillaume, c'est le plateau qui a atteint l'inflation sur fin octobre-novembre, et la BCE qui a annoncé une stabilisation de l'augmentation de ses taux. Est-ce que ça, c'est des petits signaux qui nous disent peut-être que ça va repartir?
Ça est d'une... Et de deux, vous, par rapport au prix, et au l'inflation des matières premières, et comment vous allez réagir par rapport au programme que vous sortez? Est-ce que vous pensez que vous allez augmenter vos prix? Est-ce que vous pensez que vous allez les baisser? Grosso modo, l'offre et la demande, comment ça va se passer en 2024?
Ça fait beaucoup de questions.
Ça fait beaucoup.
Donc je vais essayer de
On a une deuxième partie. Quand
même. Non, la deuxième partie, c'est autre chose.
Ouais. Non. Mais... Alors, les signaux positifs. Oui,
les signaux positifs.
Il y a des signaux positifs. Moi, j'en vois trois. Premier signal, et vous l'avez parfaitement résumé, on va avoir une stabilité des taux d'intérêt. Peut-être qu'à la fin 2024, ils vont commencer à baisser. Mais surtout, on va commencer à avoir réapparaître une reconstitution du pouvoir d'achat de nos ménages. La hausse des salaires, ça je me réfère aux propos justement de la sous-gouverneure de la Banque de France, qui nous disait que pour 2024 et 2025, les salaires vont augmenter plus vite que l'inflation. Donc, il va y avoir une reconstitution du pouvoir d'achat des ménages. Donc ça, c'est déjà un premier point positif. Ils vont regagner du pouvoir d'achat. Deuxième élément, je pense que les banques, en tout état de cause, leur métier, c'est de prêter. Donc, elles vont à nouveau prêter beaucoup plus massivement que ce qu'elles n'ont pu faire au cours de l'année 2023. Et le troisième paramètre, je l'ai oublié, mais
c'est
il va me revenir.
Vous, comment vous allez réagir?
Nous, comment
là,
on va réagir?
Et ma deuxième question, c'était celle-là. Vous, comment vous allez réagir? Vous êtes asséché? Est-ce que vous allez revoir comment vous allez sortir vos programmes? À quel prix? Est-ce que vous allez continuer à augmenter vos prix? Au contraire, vous allez essayer de les baisser?
Alors,
Pour relancer la machine.
Une réponse là aussi en deux temps. Premier élément, il faut bien que nos auditeurs comprennent que dans le neuf, c'est pas du tout comme dans l'ancien. Dans l'ancien, le prix, c'est vraiment le jeu de l'offre et de la demande. Si vous avez plus de demande, ben, le vendeur, à un moment donné, il baisse ses prix. Dans le neuf, le prix, c'est un prix totalement technique. Donc avec des coûts de construction qui ne vont pas baisser. Donc, il faut travailler sur d'autres sujets.
D'accord.
Et c'est ce que l'on fait actuellement. Et j'ai fait un gros travail avec mes équipes de regarder un petit peu tout ce qui gêne dans la réglementation et qui pourrait permettre de faire baisser les prix. Je vais vous donner juste un seul exemple. Dans la loi, dans le code de la construction, il y a des dispositifs qui sont facultatifs, qui pourraient permettre aux maires, quand on fait des opérations mixtes, logements privés et logements sociaux, d'avoir des bonus de constructibilité. C'est-à-dire que vous pouvez faire 100 ou 1000 mètres carrés de plus parce que vous faites aussi du logement social. C'est une possibilité qui est donnée aux maires, ils ne s'en saisissent jamais parce que c'est facultatif. Nous, on dit, faisons en sorte que ça devienne une règle de droit commun. C'est-à-dire que quand vous faites du logement social avec du logement privé pour de l'accession,
vous avez
tout de suite ce bonus de constructibilité et ça n'est que si les maires ne veulent pas qu'ils peuvent nous l'interdire. C'est automatique et en gros, sur le même foncier, encore une fois, au lieu de faire 60 logements, vous pouvez en faire 70 ou 80. Là, ça baisse automatiquement les prix.
Et du coup, ça ferait baisser les prix et ça améliorerait le résultat des promoteurs.
Tout à fait.
Et ça, il n'y a pas besoin de passer par le gouvernement, c'est automatique.
Non, ça, aujourd'hui, ça ne coûte rien à l'État, ça ne coûte rien à personne.
Ça
demande une volonté politique de changer les textes, les décrets, les règlements et autres.
Qu'est-ce qu'il faut changer, je crois? Très simplement.
Très simplement, c'est que la loi dit que les maires peuvent accorder un bonus de constructibilité.
Mais
nous, on dit, la loi dit, il y a automatiquement un bonus de constructibilité.
D'accord.
Vous voyez la subtilité, c'est qu'on donne une opportunité, autre les maires ne s'en saisissent pas, on le rend obligatoire,
Autre élément.
Et c'est un dispositif. Non, on n'a pas le temps, on va passer à la deuxième partie, si vous voulez bien, parce qu'on est déjà explosé un petit peu le compteur. Juste pour bien synthétiser, ce que vous dites est fondamental, parce que ça permettrait à la fois d'avoir un équilibre avec des promoteurs qui relanceraient là aussi la machine, et du coup, ça serait au bénéfice aussi des Français, parce qu'in fine,
bien sûr,
c'est au bénéfice français avec des prix qui sont maîtrisés. Vous restez avec nous, Didier Bélé-Gagnère. À suivre, les amis, ça vous concerne avec la première partie, les questions que vous posez, on vous y répond tous les mois. C'est dans le grand rendez-vous de l'immobilier. À tout de suite.
Ça vous concerne.
Eh bien, voilà les amis, comme chaque mois, et oui, à l'aube des vacances de Noël, on va vous souhaiter plein de bonnes choses et surtout beaucoup de repos. Vous l'attendez chaque mois, c'est Ça vous concerne, première partie, toujours animée avec des questions que vous posez sur le groupe Les Proprios, géré par nos amis de Capital, et c'est l'ami Vincent qui s'y prête à chaque fois. Comment ça va, Vincent ?
Ça va très bien, et vous ?
Ouais, ça a l'air d'aller. Il est en pleine forme. On se prépare pour Noël, là ?
Ouais, on se prépare bien.
Les fêtes arrivent à grands pas.
On commence à moins manger pour plus manger après. C'est ça le jeu.
Et nous avons une star de l'immobilier, un agent immobilier sur le plateau.
Oui, et c'est Anne Boucaud qui est avec nous. Bonjour.
Eh ben bonjour à tous les deux et ravi d'être là avec vous.
Avec plaisir. On répondait aux questions des auditeurs du Grand Rendez-vous de l'immobilier. La première, Olivier, à Paris. Il est seul propriétaire de son bien immobilier et il est marié. Est-ce qu'il doit avoir l'accord de son épouse pour vendre ce logement ?
Alors, tout à fait. Selon l'article 215 du Code civil, il faut savoir que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. En d'autres termes, quand on est seul propriétaire de son bien, même si on l'a acheté avant son mariage, on a besoin du consentement du conjoint pour vendre, et ce, peu importe le régime matrimonial.
Ça peut changer juste s'il y a un contrat de mariage éventuellement qui spécifie quel bien va à quel endroit d'avant le mariage ?
Non, peu importe. Alors il faut par contre être marié, c'est-à-dire que ce n'est pas valable si on est en concubinage ou pacsé ou en union libre. Mais peu importe le régime matrimonial, il faut le consentement du conjoint. Donc on récupère son consentement sur le mandat de vente et après sur
même la si l'appartement appartient il y a un contrat de mariage avec séparation.
Exactement.
Si l'appartement appartient à l'autre, il lui faut quand même le
consentement pour la vente du logement. D'accord. Si c'est le logement de la famille.
D'accord.
Si les époux vivent ensemble,
c'est quoi, résidence fiscale.
Voilà, exactement. Résidence, si c'est fiscale pour un bien autre, voilà.
D'accord. Il y a pas besoin. Quand on est pacsé, c'est pareil.
C'est valable uniquement pour le mariage. Okay.
Sauf si éventuellement dans le pacte, s'il y a une indivision, ils sont copropriétaires.
Non, parce que le PACS, par rapport à ça, pas...
Mais lorsqu'il y a deux copropriétaires, il faut
le consentement des deux, bien
d'accord.
sûr.
D'accord. Par contre, PACSé, l'appartement appartient à l'un des deux, on n'a pas l'obligation.
Tout à fait.
Et même s'il y a la résidence fiscale.
Même si c'est la résidence de la famille, dit logement de la famille, non. On n'a pas besoin de récolter le consentement du conjoint.
C'est bon à savoir.
Ouais.
Voilà, paxez-vous.
Et ça vous concerne. Une autre question pour vous, Anne. Jeanne est propriétaire d'une maison. Elle souhaite la mettre en vente. La lettre du DPE de cette maison est en G. Est-ce qu'elle doit faire réaliser un audit énergétique ?
Alors ça, c'est la grande question du moment. Eh bien oui. Alors depuis le 1er avril 2023, on est concerné pour l'audit énergétique pour les classes F et G. À compter du 1er janvier 2025, on sera concerné pour les logements de la classe E et à partir du 1er janvier 2034 pour les logements en classe D. Aujourd'hui, ça n'est valable que pour les biens en monopropriété, donc les maisons ou les immeubles qui appartiennent à un seul propriétaire. Cet audit énergétique, il est valable 5 ans. Le coût, en moyenne, c'est entre 300 euros jusqu'à plus de 1000 euros. Et l'avantage de cet audit, c'est que c'est un réel plan d'action pour justement faire sortir en fait le logement de la passoire énergétique, qui est dit donc passoire énergétique, et améliorer cette note. Et cet audit, il prévaut deux scénarios. Donc le premier scénario, c'est faire passer le logement de la lettre G à la lettre B. Et le deuxième scénario, avec une étape intermédiaire en lettre E. Et donc, ces deux scénarios amènent un coût, des coûts de travaux.
Ce qu'il faut bien que nos auditeurs intègrent, c'est que l'audit énergétique, il va plus loin que le DPE et qu'il est maintenant obligatoire.
C'est ça.
Pas le cas il y a encore 18 mois.
C'est ça, c'est exactement ça.
Il va plus loin que le DPE.
Ah, il va beaucoup plus loin parce que c'est un réel plan d'action et le diagnostiqueur met vraiment un estimatif de travaux pour justement améliorer la classe énergétique en changeant des fenêtres, en changeant la chaudière.
Mais ça veut dire que le notaire ne peut pas homologuer la vente s'il n'y a pas l'audit.
Tout à fait.
Comme pour le reste des
documents.
Exactement,
on est obligé de l'annexer sur l'avant-contrat au même titre que les autres diagnostics.
Mais l'acquéreur, il n'est pas obligé de faire les travaux programmés.
Non, mais c'est vraiment informatif au même titre qu'un DPE. Sauf que là, c'est vraiment un réel plan d'action. En gros, le DPE, c'est uniquement un état des lieux.
Est-ce que ça peut être l'occasion, par exemple, de négocier le prix ?
Ah bah oui, ça nous arrive de plus en plus, effectivement, dès qu'on a un logement déjà qui est au-dessus.
Si on sait qu'il va y avoir 30 000 euros de travaux, du coup, ça laisse une marge de négociation.
C'est en ça que c'est intéressant en tant qu'agent immobilier.
C'est moins intéressant pour les vendeurs, mais bon.
Voilà, mais au moins en tant qu'agent immobilier, de pouvoir produire cet audit assez rapidement quand on a l'information sur la lettre du DPE.
Merci beaucoup, Anne.
Avec plaisir.
Si on cherche une très bonne agence immobilière au Plessis-Robinson, c'est chez vous qu'on va. Bouco Immobilier. Et il y a aussi le site bouco-immobilier.fr.
Il y a une seule solution. Voilà. Vous allez au Plessis-Robinson. Vous n'avez pas le choix. Vous allez voir Anne. Voilà.
Avec grand plaisir. Moi, je vous
lui dites, vous lui dites, Anne, ne vois-tu rien venir? Si, je vois l'appartement où vous allez habiter ou la maison.
C'est ça.
Bien évidemment. Merci, Anne.
Merci à tous les deux.
On vous retrouve bientôt. Et on va enchaîner tout de suite avec la suite de notre programme.
Ça vous concerne.
Eh bien voilà, on reprend notre émission avec Ça vous concerne, deuxième partie. Voilà, avant les fêtes de fin d'année, on vous donne les bons conseils pour que vous puissiez digérer tranquillement ces fêtes de fin d'année. Profitez-en également pour vous reposer et surtout pensez à vos projets immobiliers avec toujours l'ami Vincent avec nous. Ça va toujours là ?
Oui, ça va, ça va.
Voilà. On a notre avocat expert, voilà, c'est l'avocat de l'immobilier. Oui. Et sur notre plateau.
Manuel Raison, bonjour Manuel.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue, avocat spécialiste de l'immobilier. Des questions pour vous, issues du groupe Facebook, le Club des Proprios, où vous pouvez poser vos questions. La première est de Martine. Elle souhaite procéder à des travaux d'isolation thermique par l'extérieur sur son logement. Elle se demande comment les réaliser en conformité avec les nouvelles dispositions légales fixées par la loi Climat et Résilience. Il y a notamment des modalités, de place du droit de surplomb et de la servitude de tour d'échelle.
Alors, pourquoi faire ça simple, hein ?
Je pense qu'elle a fait copier-coller, elle nous dit qu'est-ce que c'est que ça ?
Ouais, alors oui, expliquez-nous le surplomb, la servitude et le tour d'échelle.
Alors, c'est pas très compliqué en fait, effectivement. Le surplomb, c'est que, on l'a compris, afin d'encourager la rénovation énergétique, la loi Climat et Résilience 22 août 2021 a octroyé des droits aux propriétaires ou aux copropriétés qui ont effectivement des immeubles qui nécessitent d'être isolés par l'extérieur. Bon, alors pourquoi isoler par l'extérieur ? Évidemment, parce que ça permet de ne pas isoler par l'intérieur et ça ne permet de ne pas perdre du mètre carré, loi Carrez, et donc pas diminuer la valeur de son actif. Alors, la problématique, c'est que quand on fait une telle opération par l'extérieur, c'est qu'en volume, le bâtiment va s'épaissir et va prendre, et peut prendre effectivement, sur le fond voisin.
Ah oui.
Voilà, d'où la notion de droit de surplomb.
D'accord.
Droit de surplomb, plus la notion de tour d'échelle. Tour d'échelle, c'est-à-dire, c'est simplement la possibilité d'accéder au fond voisin pour pouvoir faire les travaux nécessaires.
Mais est-ce que le fond voisin en question, il doit être d'accord ?
Oui.
Parce que s'il n'est pas d'accord, il fait...
Il doit être d'accord, il peut s'y opposer. Alors, effectivement, donc, clairement, les conditions déjà d'octroi du droit de surplomb, c'est déjà que ce droit de surplomb, donc d'isolation par l'extérieur, ne commence qu'à 2 mètres du sol et soit d'une épaisseur maximale de 35 cm. Ça, c'est la première chose. Mmh. Ensuite, on doit démontrer qu'aucune autre technique palliative peut être utilisée, sauf si cette technique est extrêmement onéreuse ou complexe. Mmh. Et que donc, effectivement, on explique que c'est la seule façon pour moi d'isoler par l'extérieur. Ça, c'est les conditions. On doit ensuite faire, il y a tout un process, un recommandé.
Comment on fait quand les bâtiments, ils sont côte à côte ?
Ah, quand ils sont côte à côte, ils sont côte à côte. Donc là, il n'y a même pas besoin d'isolation. Finalement, l'autre bâtiment isole.
Oui, mais
la problématique, elle n'est plus quand j'ai fait une isolation par l'extérieur. Donc, je surplombe le fond voisin à hauteur de 35 cm et mon voisin veut ensuite maintenant construire côte à côte.
Ouais, ils vont
Alors non, là, c'est du coup, j'ai une obligation, moi, de ôter effectivement mes travaux d'isolation, de sorte à mes frais, de sorte à ce que mon voisin puisse
coller.
Donc là, il n'y a plus de problème d'isolation puisque le bâtiment isole très clairement.
Ça concerne beaucoup de sujets, ça.
Ça concerne énormément de sujets. Alors, il y a effectivement des problématiques de droit, puisqu'on va devoir proposer ce droit au fonds voisin, enfin en tout cas lui écrire, lui expliquer les conditions, lui transmettre un dossier complet avec les assurances des entreprises, le nom des entreprises, et un certain nombre...
C'est la copropriété qui reçoit ce doc.
Alors, c'est la copropriété voisine qui reçoit ce doc. Le syndic peut, pour la compte, si c'est une copropriété, peut faire opposition dans les 6 mois de la réception. Donc là, c'est une opposition devant le président du tribunal judiciaire. Voilà. Alors, la problématique, c'est que les parties doivent s'entendre sur les travaux, donner leur accord, et également sur une indemnisation. C'est-à-dire qu'il y a une convention qui est signée, une indemnisation. Voilà, il y a tout un process, effectivement, juridique qui permet d'officialiser les choses. Il y a un acte authentique qui va être écrit concernant ce droit de surplomb. Voilà. Donc voilà, il y a tout ce petit process, effectivement, qui est important. Encore une fois, on l'a vu, droit de surplomb tour d'échelle, qui est la servitude qui est pour permettre temporairement l'accès, encore une fois, également avec une indemnité, l'accès pour faire ses travaux.
La servitude, c'est quoi ?
Servitude, c'est simplement, on a ça, c'est un terme juridique qui peut concerner plein de solutions.
Servitude de passage, éventuellement.
Là, la servitude, c'est le droit d'accéder au fonds voisin pour mettre en fond d'échelle et faire les travaux, d'où le nom de tour d'échelle.
Si le voisin ne veut pas, s'oppose à ce qu'on...
Alors, il doit faire un recours dans les 6 mois. Si le voisin ne veut pas, il doit faire un recours dans les 6 mois.
Et motivé.
Et puis c'est effectivement, dans ce cas-là, le tribunal judiciaire, le président du tribunal judiciaire, qui statuera dans le sens de l'une ou de l'autre.
Ça arrive.
Mais ce qui est très important, par contre, c'est de ne pas laisser passer ce délai de 6 mois à réception du dossier pour bien agir. Ah, bien sûr, ça genre.
Parce qu'au-delà de 6 mois, c'est réputé être accepté. Hein.
Exactement. Okay. Pour ça que c'est important de respecter
ce
délai.
Ceux qui font le recours et qui sont quand même obligés par la loi, en général, la loi est favorable à qui ?
Encore une fois, ça dépend du projet. Est-ce que le projet a respecté, si le projet a respecté le formalisme, à savoir j'ai donné un dossier complet, j'ai expliqué pourquoi j'ai besoin de faire ça, que je ne peux pas le faire différemment comme on l'a dit tout à l'heure, sinon ça me coûterait très très cher. Voilà, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de raison de ne pas l'obtenir.
Ouais. Et en général, ça marche plutôt bien.
Oui, ça marche plutôt bien.
Donc les tribunaux abondent assez facilement.
C'est l'esprit de la loi, c'est de donner un droit.
Voilà, parce que l'esprit de la loi, c'est faciliter la rénovation énergétique, donc les tribunaux sont plus indulgents.
Alors, on a une problématique après qui est sur la négociation, sur le montant de l'indemnité qui peut souvent effectivement bloquer ou dans ce cas-là, on va demander au juge de la fixer.
Bien sûr.
Une question maintenant de Hakim qui est à Paris en copropriété. Il ne peut pas être présent à sa prochaine assemblée générale. Comment il peut transmettre le pouvoir de vote et s'assurer de la régularité du mandat, Manuel Raison ?
Alors là également, le législateur a prévu effectivement, c'était pour pallier à l'absentéisme lors des agences en général de copropriété, et c'est l'article 22 de la loi du 10 juillet 65 qui prévoit effectivement ce cas de figure. Les points à vérifier pour répondre à cet auditeur, c'est très clairement que le mandat doit être écrit, que par ailleurs, il doit bien identifier le mandant, c'est-à-dire la personne qui donne son mandat, le copropriétaire qui donne son mandat doit être identifié, il faut son nom, son prénom. On n'a pas besoin de mettre forcément le numéro des lots qu'il possède, mais qu'il soit identifié. Ça, c'est quelque chose qui est effectivement important. Et puis, que ce mandat prévoit la date de l'Assemblée générale. On ne va pas donner un mandat pour toutes les assemblées générales à venir pendant 10 ans. Non, il faut qu'effectivement cette date d'assemblée générale soit notifiée. Et quatrième point, il faut évidemment qu'il soit signé. Alors, signé par qui ? Signé par le mandant qui donne donc son pouvoir.
Qui donne son pouvoir, oui.
D'où, attention à vérifier, il ne faut pas mettre un PO, un pour ordre, puisque ça, ce serait une cause de nullité, non seulement du mandat, mais de toute l'assemblée générale, indépendamment du fait de savoir si ce vote, et donc les tantièmes exprimés par ce vote, est une incidence ou non sur l'approbation de la résolution. Donc c'est une nullité purement de forme qui peut être catastrophique. Donc pas de PO, signé bien par le mandant, sachant que celui qui accepte le mandat, s'il ne l'a pas signé, c'est pas grave, puisque sa seule présence
permet
de notifier qu'il est...
Quand il signe, il met bon pour mandat ou pas ?
Alors, c'est pas obligatoire de mettre bon mandat, il faut qu'il y ait son nom qui signe, effectivement.
À qui il peut donner son vote ?
Alors, Effectivement, ça c'est très important. Qui peut le recevoir ? Tout le monde, en général, avec des exceptions. Alors quand je dis tout le monde, c'est-à-dire des membres de la copropriété.
Oui, ça peut être le,
mais est-ce qu'on est obligé d'être copropriétaire ?
Non, ça peut être un tiers.
Mais qui n'a rien à voir avec l'immeuble ?
Ça peut être un tiers qui n'a rien à voir avec l'immeuble. La seule exception, c'est qu'il faut qu'il ait également rien à voir avec le syndic. C'est pour ça que celui qui reçoit ne doit pas être le syndic, ne doit pas être son préposé, son concubin.
Non, mais j'envoie mon frère parce que j'ai pas le temps.
Il n'y a pas de problème.
Vas-y à ma place.
Il n'y a pas de souci à partir du moment
tu me représentes.
Il n'y a pas de lien de peu ou prou avec le syndic de copropriété.
Ok, donc pas obligé d'être copropriétaire.
Non.
Par contre, pas de lien avec le syndic directement ou indirectement.
Voilà, c'est ça, exactement.
D'accord.
Pas être préposé,
donc,
ascendant,
pas de...
descendant.
Par contre, est-ce que je peux donner mon pouvoir à quelqu'un du conseil syndical ?
Oui. Alors,
ou à un autre copropriétaire ?
Tout à fait. La seule limite, c'est que je ne peux pas avoir... Enfin, celui qui les reçoit ne doit normalement pas avoir plus de 3 mandats.
Ah, c'est limité.
C'est limité, sauf il peut avoir plus de 3 mandats à partir, sauf la seule exception, c'est dans l'hypothèse où s'il a 5 mandats, il ne dépasse pas, y compris ses votes, plus de 10% des votes.
D'accord.
Voilà. Donc la règle, c'est en général, c'est 3. L'exception, ça peut être plus de 3 à partir du moment où effectivement le compte des votes de celui qui a reçu le mandat et de ses mandats ne dépasse pas 10% des voix du syndicat.
Quelqu'un qui assisterait pas à la copro à l'assemblée et qui aurait quelqu'un qui a par exemple 10 mandats pour une décision nettement supérieure à 10% de la représentation de la copropriété, il pourrait s'y opposer.
Bah il a pas le droit, le syndic n'a pas le droit de prendre en compte ses votes.
S'il le fait, il a pas le droit.
Ah bah non,
imaginons qu'il y a une urgence travaux, que les gens ne viennent pas, et que le type arrive à récupérer tous les mandats.
Non, il faut redistribuer à partir du moment où ils ne sont pas nominatifs, ce qui peut exister. Ils peuvent être redistribués à d'autres copropriétaires, mais effectivement, on ne prendra pas en compte. Et d'ailleurs, les logiciels métiers vont bloquer. En
Ça va bloquer, mais c'est bien géré comme ça, bien sûr.
Parfait.
Merci beaucoup.
Merci
raison. Raison-avocat.fr pour vous retrouver, ainsi qu'à Paris, dans le centre de Paris. Merci beaucoup.
C'est la
merci
solution.
À vous deux.
La solution, c'est de passer par le cabinet de Manuel Raison, les amis. On va retrouver nos programmes d'ailleurs tout de suite à suivre avec votre grand rendez-vous de l'immobilier en cette aube des fêtes de Noël et de fin d'année. À tout de suite.
Le grand témoin.
Voilà, de retour sur le plateau, voilà, en ce mois de décembre, un peu pluvieux, neigeux, bon, il faut le souhaiter, c'est normal, c'est la saison, il faut quand même un peu avoir froid en hiver, donc voilà, je paraphrase un peu, mais vous comprendrez bien ce que je dis, j'espère que vous allez passer toutes et tous d'excellentes vacances de fin d'année en famille et au repos. Dans ce 54e numéro, nous avons toujours présent sur le plateau le délégué général de la Fédération des promoteurs immobiliers pour parler de l'immobilier neuf, Didier Bellic-Gagnère, merci d'être avec nous pour cette deuxième partie, Guillaume. On va continuer à parler du neuf et notamment de la construction. On l'a dit dans la première partie de l'émission, le secteur de la construction est entré en récession la semaine dernière.
Oui, et là on va sortir un peu de l'actu pour un peu se projeter sur l'avenir de la construction. Donc, par contre, on le sait, pénurie de foncier, politique de zéro artificialisation des sols qui ferait qu'on va plus pouvoir étendre la construction au-delà des grandes agglomérations. Donc ça, il y a tout un programme pour limiter cette artificialisation des sols. Par rapport à ça, comment vous vous préparez, vous, à construire demain et à construire plus la ville sur la ville, quoi ?
J'ai envie de dire qu'on le fait déjà depuis très longtemps et je vais vous donner un chiffre pour illustrer mon propos. C'est que 87% de la production des promoteurs immobiliers, donc dans le logement collectif, se fait déjà sur des sols artificialisés.
87%.
87%.
Ah oui. C'est énorme.
On a fait une étude, on a analysé 400 permis de construire. On a regardé un petit peu justement quel était le foncier, quelle était l'origine du foncier. On a constaté que dans 87% des cas, on est déjà sur du sol artificialisé. C'est le garage que vous démolissez,
vous faites une construction
sur un immeuble. Ce sont des friches, ce sont des opérations d'aménagement, mais en renouvellement urbain.
Donc, vous vous rendez compte, on est déjà au rendez-vous. C'est une charge symbolique extrêmement importante, parce que la plupart des Français, on les bassine complètement en disant on artificialise.
Je sais.
Et là, vous venez de rétablir finalement une vérité absolue. C'est incroyable.
Et je voulais vraiment objectiver les choses, parce qu'on nous dit toujours les promoteurs, ce sont des bétonneurs. Eh bien non, pas du tout. On intervient déjà dans la ville.
Déjà artificialisé.
Et donc sur du terrain.
Ça veut dire que vous êtes déjà, avant même que les textes et que la mode s'y prête, entre guillemets, vous êtes déjà dans une dynamique de rebâtir la ville sur elle-même.
Absolument.
Et voire même de recyclage urbain.
Et on fait du recyclage urbain. Et dans quelques jours, on a notre grande cérémonie des pyramides, qui est le festival de Cannes des promoteurs, si vous me permettez cette expression. On met des prix du meilleur acteur, etc. Enfin, de la meilleure opération en aménagement, etc. On a dans les candidats, peut-être lauréats, des opérations où on restitue. C'est-à-dire qu'on remet de la pleine terre là où il y avait du béton.
Vous avez des exemples comme ça en tête qui,
eh ben, j'ai une opération, mais comme c'est... j'ai envie de vous dire, je vous donne rendez-vous dans deux jours parce qu'il y aura notre cérémonie, mais des opérations, très clairement, enfin, je pourrais ressortir l'opération, je ne peux pas la citer là.
Non, mais sans parler d'opérations, qu'est-ce qui se fait par exemple? Qu'est-ce qui peut se faire d'intéressant?
Ben, ce qui se fait, c'est que effectivement, vous êtes sur. Je peux prendre une opération, ben, un garage. Hein, je prends cet exemple-là, le garage avec le parking. Et ben, en fait, le parking, lui, redevient
absolument
des espaces verts. Les sols sont traités, des petits cheminements, des venelles, etc., etc.
Vous avez d'ailleurs.
Là où il y avait du béton, où il y avait du goudron.
Vous rendez de la terre. Vous rendez de la terre à la nature, mais il y a un autre dossier aussi, je l'ai appris, tant mieux pour la Fédération des promoteurs. Le groupe Nexity a rejoint. Est revenu à la Absolument. Fédération des promoteurs avec Véronique Bédac, qui a d'ailleurs été très claire dans son discours en disant que maintenant c'est la Fédération des promoteurs qui porte la voix des promoteurs. Je prends l'accord historique qui a été signé avec Carrefour pour le groupe Nexity. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces zones périurbaines où il y avait des hypermarchés sont maintenant en cœur de ville quasiment, parce que la ville s'est étendue, seront rendues à la nature, ce qui démontre absolument.
Et ça pose des contraintes, je reviens toujours au client, moi, au final, à l'acheteur, à moi-même. Du coup, ça cause des contraintes de coûts supplémentaires pour vous, et ça veut dire demain des logements plus chers?
Non, ça demande en fait une plus grande densité, mais une densité heureuse. On peut quand même construire plus dense. Et là encore, je vais vous donner un chiffre.
C'est des opérations plus complexes quand même.
C'est des opérations plus complexes, mais attention, on a constaté que, vous savez, il y a des documents d'urbanisme dans les communes qui disent, voilà, sur telle zone, vous pouvez faire 100 logements. Et en fait, on constate qu'en réalité, le maire dit, bah non, attendez, votre opération, il y a un étage de trop, vous me l'enlevez, donc on passe à 65 logements alors qu'on peut faire 100 logements. Donc c'est ça, en fait, le facteur qui aboutit à des hausses de prix et des logements plus chers. Si on revient sur l'optimisation de ce que l'on peut faire sur un site, c'est-à-dire faire 100 logements alors que le maire nous n'en demande que 75, on a des prix à nouveau corrects, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On a une optimisation des prix du foncier, par exemple.
Et d'ailleurs, c'est ce que vous demandez. D'ailleurs, vous demandez à ce que le plan local d'urbanisme, alors pour nos auditeurs, il faut expliquer, c'est la capacité de pouvoir construire un certain nombre de logements. Vous demandez à ce qu'on respecte strictement le PLU.
Ce qui a été défini par...
Voilà, le PLU.
On est dans une situation aberrante où le maire ou les élus définissent une règle.
Et ils ne la respectent pas.
Et ils ne respectent même pas la règle qu'ils se sont fixée.
Absolument.
On parle de densification heureuse, ça c'était le mot, je crois, d'Emmanuel
Vargon.
Parce que là, on va construire sur la ville. Mais comment expliquer clairement à moi, à me faire comprendre que dans 30 ans, 40 ans, elle sera vraiment heureuse, cette densification, parce que on va plus s'étendre, on va vivre dans des grandes agglomérations, on va reconstruire par-dessus. C'est quoi une densification heureuse pour vous?
Ça peut être de la verticalité, par exemple, de la hauteur?
Ça passe par quoi? Les modes de construction de demain? Quel niveau de végétalisation? Faites-nous rêver, là.
C'est vraiment... je ne sais pas si je vais réussir, mais, c'est compliqué.
Notre ami Guillaume est dans une bonne...
C'est compliqué. Je crois que quand Vargon parlait aussi
on n'aura plus de maison individuelle, donc voilà.
Elle parlait de la maison individuelle, mais je crois qu'elle avait une vision très parisienne de la maison individuelle.
Oui, attention, la maison individuelle.
La maison avec 1000 mètres carrés de terrain. Ouais. Très clairement, je le vois dans le sud de la France. Maintenant,
il y a de moins en moins. Bien vu, bien sûr.
C'est la maison avec un peu de terrain pour faire du barbecue.
Un petit bout de jardin, mais bien sûr.
Et donc, on a quand même des espaces. Alors, la densité heureuse, ça peut être ce qu'on appelle des maisons en bande, où on a quand même du terrain et on a quand même pas mal de densité. Mais chacun est chez soi, a son petit espace et le voisin ne voit pas ce qui se passe.
Oui, comme de la copropriété de sol qui permet. Voilà,
on peut très bien faire parfois du R+1, du R+2.
Très bien.
Où chacun a son entrée personnelle, a son espace extérieur personnel et personne ne voit ça c'est le génie des architectes, personne ne voit ce qui se passe chez le voisin, dans le terrain du voisin.
Les solutions existent en fait.
Les solutions existent et l'innovation.
Parce qu'on a interrogé les Français.
Un chapeau aux architectes.
Quand on interroge les Français, ils sont 87% à répondre qu'ils veulent tous une maison individuelle. C'est-à-dire que, oui, on partage tous l'idée qu'il faut avoir une transition climatique, environnementale. Néanmoins, on a quand même un peuple français dans notre pays qui veut une petite maison individuelle. Ce que vous dites est très important parce qu'effectivement, on peut faire un R+1 sur une petite maison, on peut avoir des copropriétés de sol, des petits bouts de jardin, et tout ça sans empiéter, en respectant le zéro artificialisation nette. D'ailleurs, c'est intéressant parce que souvent, quand on parle du ZAN, on retient que le zéro. Alors qu'en réalité, dans le ZAN, on peut construire, mais mieux.
Absolument. Moi, je me souviens, dans une vie professionnelle antérieure, où on avait fait des maisons en bande, effectivement, avec un espace extérieur, des espaces privatifs, mais le sous-sol était mutualisé.
D'accord.
Ah, c'est top.
Et ça permettait aussi de construire moins cher, puisque un sous-sol mutualisé, on pouvait garer sa voiture, etc. On consommait moins d'espace à l'extérieur. Donc, vraiment, tout est possible. Quelque part, il faudrait simplement dire, libérons un petit peu la réglementation et l'imagination des architectes, des promoteurs.
Il y a un grand débat sur la maîtrise du pouvoir d'achat et notamment des bâtiments qui rendent et qui améliorent le pouvoir d'achat. Je prends par exemple une opération qui est menée à Lyon Confluence, qui s'appelle le 22-26 par Dexity, qui est un immeuble dans lequel jamais c'est une garantie des architectes dans lequel on maintiendra une température l'hiver de 22 degrés et un confort d'été sans activer ni climatisation ni chauffage par des modes constructifs. Est-ce qu'on ne voit pas là, Didier Belléganière, finalement des nouveaux modes constructifs un peu révolutionnaires, l'assemblage hors site par exemple, des murs en paille, un mix finalement de construction entre le béton et le bois. Est-ce que tout ça finalement, vous sentez que les Français comprennent bien cette mutation et que finalement ils en seront les premiers bénéficiaires?
Je pense qu'ils la comprendront de plus en plus, cette mutation. Et ils sont demandeurs. Je fais juste un petit pas de côté. Le DPE, il y a 2 ans, 3 ans, les Français, le diagnostic de performance énergétique, ne savaient absolument pas ce que c'était. Maintenant, ils sont particulièrement vigilants, ils regardent ces choses-là. Oui. Donc, je crois que la transition écologique, la lutte contre le réchauffement climatique, ce sont des données qui sont parfaitement intégrées par nos concitoyens. Et donc, ils vont progressivement en tirer les conséquences. Et en se disant, oui, effectivement, si je veux aussi contribuer à la sauvegarde de la planète, je vais peut-être me tourner vers une maison ou un immeuble avec des modes constructifs différents.
Et justement, pour poursuivre la question de Silva, c'est ça, on va peut-être fermer là-dessus. À l'aube de la COP28 qui vient de se refermer, vous travaillez sur quoi demain comme nouveaux matériaux, comme nouveaux modes de construction? Là encore, faites-nous un peu rêver. Qui vont répondre à ces exigences environnementales? Dans quoi je vais habiter demain?
C'est pas FPI qui travaillons, ce sont nos promoteurs
voyez...
et chacun a sa petite solution. Il y a de la terre crue, il y a de la paille, il y a du bois, il y a vraiment plein de tests différents qui se font actuellement avec effectivement cette volonté
absolument.
Notamment énergétique, de confort d'été, de confort d'hiver, etc. etc.
Une dernière question, on l'a vu d'ailleurs, il y a des bâtiments iconiques, je parle par exemple de la tour Danube est réalisé par Elitis Group et à l'Arsenal à Dijon, qui est une tour d'immeubles, c'est 54 logements par exemple à Dijon, dans lequel est installée une centrale photovoltaïque qui alimente l'immeuble et le rend complètement positif en énergie, voire même revend l'énergie avec l'opérateur énergétique dans le cadre de l'économie circulaire. Il y a un autre projet à Brest dans lequel il va aller plus loin, Litis Group. Ils vont intégrer une centrale photovoltaïque et de l'énergie éolienne. Le métier de promoteur est en train d'évoluer, finalement.
Le métier de promoteur a toujours évolué.
Oui.
C'est en permanence.
Quand vous voyez ces modes constructifs, c'est révolutionnaire.
Bien sûr. On a l'image du promoteur encore.
C'est
un peu rétrograde ou ce genre de choses, mais c'est absolument.
Oui, mais quand on pose la question en français, c'est ce qui nous. Vous avez raison.
Mais ça n'est absolument pas le cas. Et c'est d'ailleurs tout l'objet. Pardon, mais j'en fais un peu de publicité, mais c'est tout l'objet de notre cérémonie des pyramides, de montrer en fait à travers des
innovations.
Et je ne sais pas si ça peut persuader nos concitoyens ou vos auditeurs, mais on a eu, en termes de candidatures et de projets déposés, alors qu'on est en crise, on a eu plus de 600 projets déposés.
Énorme.
C'est énorme. Il y a encore quelques années, on tournait plutôt autour de 400-500 projets. Là, on est à 650 projets ont été déposés. L'année dernière, c'était le même ordre de grandeur, un petit peu plus. Et chacun des projets, soit c'est très novateur sur l'usage, très novateur sur la consultation de nos concitoyens et des riverains pendant toute l'opération, toute la durée de l'opération, sur les modes constructifs, sur mille et une choses. Quoi. Donc, à chaque fois plein d'exemples différents qui montrent la capacité d'innovation.
Je vous parlais des tours des tours d'Elitis, par exemple, qui sont des tours de hauteur importante. Est-ce que la hauteur finira par s'imposer dans les villes? La hauteur, la verticalité. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que la FPI défend cette idée qu'il faudra nécessairement, avec l'explosion démographique, aller plus haut?
Bien sûr. On a évoqué tout à l'heure le zéro artificialisation nette. Je reprends l'image, si vous permettez, de mon président. Il dit tout ce qu'on ne peut plus faire en horizontal, on sera obligé de le faire en vertical. Donc très clairement, la hauteur, c'est quelque chose qui va s'imposer progressivement dans notre paysage. Mais la hauteur, c'est plus la barre HLM des années 50. Hein. Vous voyez des immeubles, vous le disiez, totalement iconiques, avec des balcons qui sortent. Enfin, on est à la radio, donc c'est difficile de... Mais il faudrait voir. Enfin, même en région parisienne, ici, les Moulineaux ou autres, vous avez des merveilles. Enfin, moi, je considère comme absolument des merveilles, alors que c'est des tours. Je pense que les gens qui vivent dedans sont très heureux.
Merci beaucoup Didier Bielegrenier, merci de nous avoir éclairé sur le rôle de l'FPI. Je rappelle que si on veut avoir toutes les informations et connaître mieux l'action que vous menez pour le logement des Français, c'est sur fpifrance.fr. Merci à vous, on enchaîne tout de suite avec nos programmes de la suite du 54e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, juste avant les fêtes de fin d'année. Ça nous faire du bien d'avoir quand même quelques bonnes nouvelles, à tout de suite.
Ça vous concerne.
Voilà, ça vous concerne. Troisième et dernière partie pour les questions que vous posez sur le club Facebook des propriétaires. Nous recevons sur le plateau Charles Flaubert. Bonjour Charles.
Bonjour.
Vous êtes notaire à Saint-Maur et la question que vous est posée, c'est Laurent de Boissy-Saint-Léger. Guillaume, il nous pose une question sur le DPE notamment.
Oui. Oui, Vincent est parti. Je prends le relais pour Vincent Favero est parti. Je prends le relais pour la dernière partie de ça vous concerne. Laurent de Boissy-Saint-Léger, dans le Val-de-Marne, nous pose cette question. Il vient d'acheter un appartement pour le mettre en location et le DPE fait par l'ancien propriétaire date de février 2023, donc d'il y a presque un an, et il est classé D. Notre auditeur nous demande s'il a besoin d'en refaire un nouveau tout de suite pour remettre en location ou si, en grosso modo, le trait est encore valable.
Alors, c'est le diagnostic de performance énergétique, on en parle beaucoup. Hein. C'est vrai que c'est...
Tout le temps.
Tout le temps, c'est une problématique pour les clients, pour les propriétaires, notamment en matière de location. Donc, pour répondre aux clients, premièrement, les diagnostics de performance énergétique sont valables 10 ans. Donc la règle, 10 ans, donc c'est bon, pas besoin de refaire faire ce diagnostic. En plus, il est classé D, ce logement.
Il est classé D, me dit-il.
Donc c'est très bien, donc ça veut dire que non seulement il n'a pas besoin de le refaire, et en plus il peut le louer librement, et il pourra augmenter le loyer, puisque la règle c'est 10 ans. À noter tout de même que des anciens diagnostics de performance énergétique peuvent avoir des durées de validité qui sont un petit peu plus faibles, notamment ceux établis avant 2018. D'accord. Mais là, en l'occurrence, on est bon, il n'y a pas de problème. Et à noter aussi, ça c'est très important, on le rappelle toujours, quand les logements sont classés G+, c'est-à-dire que G, les moins bien classés avec 450, moins bon classement, plus de 450 de consommation par mètre carré par an, on n'a plus le droit de les louer. Ils sont considérés comme indécents et donc on n'a pas le droit de les louer, donc c'est extrêmement important. Et à noter que ces interdictions vont s'appliquer après au F et au G progressivement, donc c'est vraiment très important. Mais là, pas besoin de refaire le diagnostic. Et le client peut louer librement, donc tout va bien.
Bon, bah c'est très clair pour notre ami Laurent. Une deuxième question nous vient de Delphine de Rennes. Delphine, elle est propriétaire, elle rembourse un crédit tous les mois, et elle nous demande s'il y a des frais de remboursement anticipés sur son prêt immobilier. Elle n'a visiblement pas encore regardé son contrat, mais Qu'en est-il ?
Alors, effectivement, il convient d'examiner son offre de prêt, puisque l'offre de prêt va indiquer s'il existe des indemnités de remboursement anticipé, des pénalités de remboursement anticipé. Généralement, lorsqu'on fait racheter son crédit, comme on dit dans le langage courant, racheter son crédit, c'est-à-dire se refinancer auprès d'une autre banque, il y a des pénalités de remboursement anticipé. Lorsqu'on vend un bien, et donc qu'on rembourse de façon anticipée, généralement, il n'y a pas de pénalité de remboursement anticipé, mais ça dépend en fait des conditions qui ont été souscrites, qui ont été convenues au moment de la souscription du prêt, c'est-à-dire au moment de l'achat du bien. Hein, donc, il faut regarder l'offre de prêt de la cliente pour pouvoir répondre à sa question. Mais sur le principe, indemnité quand on rachète et quand on vend, généralement pas d'indemnité.
Et quand il y en a, juste pour se conclure, c'est de l'ordre, c'est de quel ordre
c'est Alors, prêt c'est déterminé. Alors, c'est assez complexe. C'est déterminé par les offres de prêt, mais ça correspond généralement à des années d'intérêt. Donc, c'est les calculs financiers, c'est un petit peu complexe, mais ça peut être plusieurs milliers d'euros pour les clients quand ils remboursent. Et peut-être un dernier point qui est très important aussi, c'est que très souvent, lorsqu'on rembourse son prêt, on va dire les logiciels des banques demandent très souvent ces indemnités. Alors qu'elles ne sont pas dues. Donc, ce n'est pas parce que la banque, le décompte indique qu'il y a une pénalité qu'elle est forcément due. Donc, bien vérifier son offre et faire une demande au banquier en disant non, j'ai vérifié mon offre, la pénalité n'est pas due. Parce que parfois, on peut avoir des logiciels ou des réponses qui répondent automatiquement que l'indemnité est due alors qu'elle ne l'est pas forcément.
Merci Charles.
Et ça dépend finalement à la fois des règles contractuelles qui lient parce que d'une banque à une autre, ça peut changer.
Ça change d'une banque à une autre et même en fonction des clients, en fonction de plein d'éléments, on va dire c'est une négociation commerciale au moment de la souscription de l'emprunt.
D'accord.
On avait une question qui venait de Paris, un appartement parisien dans un immeuble inscrit monument historique avec un DPEF. C'est une bonne question. Est-ce que les monuments historiques sont-ils soumis au DPE ?
Alors, c'est là aussi une bonne question. C'est un avantage. Lorsque le bien est monument historique, on n'est pas soumis au diagnostic de performance énergétique. Ce n'est pas obligatoire. Donc,
je le savais
pas. Avantage pour le propriétaire. Il y a beaucoup d'avantages en monument historique, notamment des déductions fiscales et autres, parce que, évidemment, l'État, on essaie d'entretenir au mieux le patrimoine historique de la France. C'est notre patrimoine à tous. Donc, pour les DPE, on n'est pas soumis.
Dans le cadre de la loi Malraux, qui s'inscrit donc dans les monuments historiques, ça peut se faire.
Alors voilà. Oui, en fait, la loi Malraux, c'est plus un régime fiscal. Hein, c'est plus un régime fiscal lié aux monuments historiques. Hein, c'est un petit peu autre chose.
Donc la réponse,
ça avait été adopté à l'époque pour rénover les centres-villes anciens qui étaient un petit peu fatigués, si je peux m'exprimer.
Maître, c'est inscription au monument historique.
Tout à fait.
D'accord. Hein. Si ça fait partie de l'inventaire, par exemple.
Alors, techniquement, c'est ISMH ou MH, c'est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou monument historique, mais dans les deux cas, on est un monument historique et on n'est pas soumis au diagnostic de performance énergétique.
Alors, ça, c'est une réponse, c'est très concret. Voilà, vous avez la réponse. Merci, Maître Flomer.
Merci.
On retrouve votre étude à Saint-Maur. Vous êtes notaire à Saint-Maur.
À Saint-Maur des Fossés.
Et on vous trouve très facilement sur Internet. Voilà, et c'est la fin de ce 54e numéro du Rendez-vous de l'immobilier. On va faire la conclusion dans quelques instants. Merci à toutes et à tous. On se retrouve tout de suite après ça.
Le grand rendez-vous de l'immobilier.
Eh bien les amis, voilà, c'est la fin de ce 54e numéro qui clôture également l'année 2023. On va se retrouver pour un prochain rendez-vous en janvier 2024. D'ici là, nous allons passer de très belles fêtes de fin d'année, des fêtes de Noël et un très beau jour de l'an, malgré le contexte actuel. Je voudrais remercier bien évidemment toutes nos équipes, hein, les équipes de Radio Immo, les équipes de Capital qui ont concouru pour cette année 2023 à vous faire partager toute l'information immobilière. Guillaume, on se retrouve en 2024, exactement le 19 janvier.
Oui, et donc je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve en début d'année. Et puis Sylvain, on sera ensemble.
Voilà, avec grand plaisir. Voilà, on vous souhaite de très très belles choses. Prenez bien soin de vous. Protégez-vous bien. Il va faire très froid en cette fin d'année. Une très très belle année 2024. Et n'hésitez pas d'ailleurs, comme vous le faites chaque mois, à nous poser vos questions sur le club Facebook des Proprios qui est géré par nos amis de Capital. D'ici là, encore une fois, de très très belles fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à liker et à commenter, toujours avec beaucoup de bienveillance. Et on se retrouve en 2024. Bonne fête à tous.
Le grand rendez-vous de l'immobilier à retrouver sur Radio Immo et capital.fr.